Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13h sur Radio SBS, nous sommes le dimanche 9 novembre 2025, vous écoutez votre programme en français. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et comme tous les dimanches, on commence avec le personnage qui a marqué la semaine. Mesdames et messieurs, on va parler de Charles Coste à présent, notre personnage de la semaine. Charles Coste qui, l'année dernière, rallumait la flamme olympique. Dernier champion français survivant des Jeux olympiques de l'après-guerre, Charles Coste vient de nous quitter à l'âge de 101 ans. De Londres 1948 à Paris 2024, retour sur le parcours d'un homme dont la lumière ne s'est jamais éteinte, avec Eléana Guillauchon.
Sous la pluie des jardins des Tuileries, un vieil homme attend, un flambeau à la main. Ce 26 juillet 2024, à 100 ans, Charles Coste entre dans l'histoire une seconde fois. Le dernier champion olympique, survivant de l'après-guerre, devient, le temps d'un instant, le symbole d'un siècle d'olympisme. Une année plus tard, ce héros discret s'éteint à l'âge de 101 ans, mais avant de devenir ce visage ému, applaudi par le monde entier, il a été un cycliste d'exception. Aujourd'hui, revenons sur la vie de Charles Coste, l'homme à la flamme éternelle.
À 12 ans, je disais que je serais général ou champion olympique. Voilà, j'ai préféré choisir champion olympique.
Un rêve né loin des grandes villes, tout commence à Olioul, dans le Var, où Charles Coste naît le 8 février 1924. Très tôt, il se passionne pour le cyclisme. À 16 ans, il participe à sa première compétition et remporte plusieurs victoires régionales. Son talent le mène au Vélo Club de Levallois, un grand nom du cyclisme amateur français, et se prépare intensivement pour les compétitions nationales et internationales. En 1947, il remporte le championnat de France amateur de poursuite individuelle, une épreuve qui, à l'époque, n'est pas encore au programme olympique. Peu importe, le jeune Coste s'impose déjà comme un pistard hors pair. Il est précis, rapide et tenace. L'année suivante, direction Londres. Les Jeux Olympiques de 1948, les premiers de l'après-guerre. Le monde panse encore ses plaies et le sport devient un symbole de paix retrouvée. Charles Coste a 24 ans. Il représente la France dans l'épreuve de poursuite par équipe, aux côtés de Pierre Adam, Serge Blusson et Fernand De Canali, ironiquement appelée l'équipe ABCD. Le quatuor français affronte les Italiens en finale, une course haletante d'une intensité rare, et au bout, c'est la victoire, la médaille d'or olympique.
And here they come, dashing over the finishing line to win new Olympic honors for France.
Un triomphe simple, presque modeste, Coste racontera plus tard « On nous a remis la médaille dans un écrin, pas autour du cou, et on ne trouvait même pas le disque de la Marseillaise. » Au-delà de l'anecdote, c'est tout un pays qui retrouve fierté et lumière. Seulement quelques semaines plus tard, au championnat du monde de 1948, Charles Coste termine troisième de la poursuite individuelle. Puis à la fin de l'année, il passe professionnel. Une carrière solide et discrète commence. De 1949 à 59, Coste enchaîne les courses sur route et s'impose parmi les meilleurs coureurs français du moment. Son plus grand exploit arrive très tôt. En 49, il remporte le Grand Prix des Nations, une prestigieuse course contre la montre, considérée à l'époque comme le championnat du monde officieux de la discipline. Cette même année, il se classe deuxième du Grand Prix de Suisse. En 1950, il réalise l'une de ses plus belles performances, quatrième du Paris-Roubaix, la mythique reine des classiques. Une course dantesque sur les pavés du Nord où seuls les plus endurants survivent. Au fil des années, il multiplie les podiums, deuxième du Paris-Camembert en 1953, vainqueur du Paris-Limoges la même année et vainqueur de la Ronde de Monaco en 1954. Son palmarès dessine le portrait d'un coureur constant, travailleur, fidèle à sa passion du vélo. Il participe par la suite à 3 éditions du Giro d'Italia avec une meilleure place de 40e en 1956 et il prend le départ du Tour de France en 1952 et 1957 sans parvenir à terminer. Mais ses tentatives seules prouvent son courage et sa ténacité. Après 10 ans de compétition, il prend sa retraite en 1959. Loin des caméras, il s'efface, presque oublié du grand public. Et il faudra attendre 2022 pour que la France se souvienne pleinement de lui. Cette année-là, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, lui remet la Légion d'honneur. Une reconnaissance tardive mais profondément méritée que Charles Coste dédie à ses 3 anciens coéquipiers de 1948. Et puis, l'été 2024. 76 ans après Londres, il revient dans la lumière. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, il devient l'avant-dernier porteur de la flamme. Sous la pluie, il tend le flambeau à Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Un geste simple, mais chargé d'émotion, une image qui fera le tour du monde.
C'est un grand honneur qu'on m'a fait. Je remercie Tony Estanguet. J'ai passé une soirée formidable, inoubliable.
Doyen mondial des champions olympiques, Charles Coste s'éteint le 30 octobre 2025 à l'âge de 101 ans. La ministre des Sports, Marina Ferrari, salue un modèle de persévérance et un héritage sportif immense. De la piste de Londres à la pluie de Paris, de la gloire de 1948 à la flamme de 2024, Charles Coste aura traversé un siècle d'histoire avec humilité et passion. Et même si sa lumière s'est éteinte, la flamme olympique qu'il a portée brillera toujours dans la mémoire du sport français.
Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Un duo pour cette première chanson de notre dimanche, c'est Grand Corps Malade et Kimber Rose. Allez, on marque une très courte pause et on retrouve à nouveau Eric Woerth et Anne Genoté juste après. Hier, on parlait des relations bilatérales franco-australiennes. Et bien aujourd'hui, on fait un point de situation sur la politique domestique en France en ce moment. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode spécial d'Europa Voice. Nous recevons en studio aujourd'hui à Melbourne 2 personnalités politiques. Eric Woerth, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente plus en France, mais ici nous sommes écoutés par des francophones et par des anglophones qui apprennent le français, donc je vais vous présenter. Vous êtes député de l'Oise, ancien maire de Chantilly, ancien ministre du budget, ancien ministre du travail et actuellement, c'est notamment pour ça que vous êtes ici, ce qui nous intéresse, président à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié parlementaire France-Australie. Madame Genoté, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas votre première apparition sur nos ondes. Vous avez déjà été notre invitée, députée de la 11e circonscription des Français établis hors de France, ancienne présidente du groupe d'amitié. Je voudrais aborder le thème de la politique nationale. c'est la crise en France. On a beau être à 17 000 km, on le voit ici aussi. Nous, on voit ça de loin, on voit ça de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est de l'intérieur? Notamment vous, Madame Génoté, vous avez été ministre de l'Éducation environ 3 mois. On en est à 7 personnes qui ont eu le rôle de Premier ministre sous les 2 présidences d'Emmanuel Macron. Racontez-nous un petit peu le chaos de la politique vu de l'intérieur.
Non, mais la France, ce n'est pas que le chaos. On résume aujourd'hui la France comme si c'était un pays qui était en plein chaos. Et, bon, il y a une crise politique. Enfin, il y en a eu d'autres. Hein. Cette crise politique, elle est assez simple à décrire. Nous n'avons pas de majorité. Quelle que soit la majorité, les Français décident d'une majorité, le pays fonctionne. Quand il n'y a pas de majorité, c'est plus compliqué de faire fonctionner le pays, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est très difficile de faire voter des lois, on le voit sur le budget, sans majorité. Donc il faut des compromis. Et nous ne sommes pas un pays de compromis. On n'a pas été culturellement habitué au compromis, et la Constitution d'ailleurs n'est pas tellement taillée. Elle est taillée pour beaucoup de choses, elle est absolument remarquable, la Constitution de la Ve République, mais c'est difficile de passer des compromis, c'est pas culturellement dans l'idée des partis politiques encore d'aujourd'hui. On est un peu en apprentissage. Maintenant, on a quand même besoin d'abord d'avoir un budget.
Qui est en cours d'étude à l'Assemblée nationale en ce moment.
On a besoin d'un budget, parce qu'une France sans budget, c'est pire que tout. Donc on a besoin d'un budget. C'est pour ça que la majorité relative a été d'accord pour prendre un certain nombre d'amendements du Parti socialiste qui ne ressemblent en rien à nos convictions profondes. Donc on verra si le Parti socialiste est prêt à abandonner une partie de ce qu'il souhaite pour voter le budget. Bon, on fera des efforts pour le voter aussi, mais si à un moment donné, on ne peut pas voter non plus un budget qui ne ressemble à rien à ce qu'on penserait comme un idéal. Donc on est en train de le voir au fur et à mesure des amendements. On pense que le redressement financier de la France, il passe d'abord par une réduction de la dépense publique. Ça ne veut pas dire d'arraser la dépense publique. On restera toujours un pays où il y aura plus de dépenses publiques que dans beaucoup d'autres pays, parce qu'il y a des réponses qu'on considère comme publiques quand dans d'autres pays elles sont privées. Mais enfin, on doit aux contribuables une chose, c'est l'efficacité de la dépense publique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que souvent elle n'est pas efficace. On met souvent plus d'argent qu'un autre pays pour un résultat moindre. Donc on a besoin de se poser ce type de questions, et on voit bien que les députés, les partis politiques ont du mal à se poser rationnellement cette question. Et donc la réponse, c'est une augmentation de la fiscalité. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. On est sûrement le pays, l'un des pays en tout cas, les plus justes du monde. Le moteur de redistribution sociale, il est considérable. La réduction des écarts de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres est considérablement réduite par ce moteur de redistribution. Bon, ce moteur de redistribution, personne n'en est content. Et pourtant, il joue son rôle, simplement parce qu'il est invisible. Mais il n'est pas invisible sur le plan financier. Il coûte très très cher. Et ça correspond, et ça explique le taux d'endettement aujourd'hui du pays. Donc on doit réduire notre dette pour augmenter notre souveraineté. On a besoin de construire un plan de réduction ou de refroidissement de la dépense, tout en gardant évidemment l'esprit social qui est un esprit profond dans notre pays. Mais on a besoin d'efficacité économique. S'il n'y a pas d'efficacité économique, il n'y a pas de production de richesse. Et s'il n'y a pas de production de richesse, bah, évidemment c'est très difficile de répartir ce qu'on ne produit pas. On est un peu dans ce moment charnière. Le problème, c'est que pas de majorité, quand les moments ne sont pas charnières, ça peut aller. Mais un paysage aussi fractionné, quand on a besoin d'être sur tous les fronts, de la transition écologique à la souveraineté, impliquant des augmentations de dépenses militaires que personne ne peut contester, tout cela tend beaucoup la société. Et la réponse politique, elle est un peu diffuse, parce que personne n'a la majorité pour concentrer au moins une réponse.
Il y a ce qui est faisable, ce qui est réaliste, mais il y a aussi ce qui est idéal, vous le disiez. Et puis en France, on fait souvent aussi passer l'émotion. On voit bien, par exemple, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a la taxe Zuckmann qui est vraiment prise par le parti de l'émotion. Vous parliez des différents partis politiques, je ne vais pas en viser un, mais par exemple le Rassemblement national qui a proposé son contre-budget, 36 milliards d'économies. Et il y a eu la réaction sans appel de Philippe Agion, le prix Nobel d'économie, qui dit que ce n'est pas du tout réaliste.
Mais c'est de l'argent magique. C'est de l'argent qui n'existe pas. Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut, mais c'est de l'argent magique, ça n'existe pas. Donc c'est pas un budget, c'est un budget de conte de fées.
Madame Genoté.
Oui, pour ajouter à ça, quand ils demandent dans leur plan d'économie de réduire la contribution de la France à l'Union européenne, je suis désolée, ça ne se fait pas. Et en disant cela, ils mettent directement en difficulté nos agriculteurs qui bénéficient de la politique européenne à travers ce qu'on appelle la PAC et qui en bénéficient tous les jours. Donc on ne peut pas s'annoncer défenseur des agriculteurs d'un côté, de l'autre côté, les priver de ce qui contribue à leurs revenus et à leur travail quotidien. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, réduire également les budgets sur tout ce qui est immigration, alors même que par ailleurs, et c'est d'ailleurs ce que nous avions proposé et voté nous-mêmes, d'avoir une immigration choisie, qualifiée, compétente, qui répondent aux besoins de main-d'œuvre, qui sont réels, qui ne font faire que s'accroître dans les années qui viennent. Voilà, là aussi, c'est complètement magique. Imaginez qu'on va résoudre tous nos problèmes avec quelques réductions de dépenses, qui n'est pas possible de mener d'ailleurs. Voilà, je crois qu'il faut être réaliste, ça n'est pas possible. J'aurais peut-être ajouté un point sur ce qui se passe actuellement, parce que le mot chaos, moi, je l'aime pas trop. Et on est très loin, on se rend pas bien compte, on reçoit l'actualité comme elle nous vient, un peu comme un boomerang. Vraiment,
avec beaucoup d'émotions.
Voilà, avec beaucoup d'émotions. La France, elle fonctionne. Elle fonctionne aujourd'hui, les écoles sont ouvertes, les magasins fonctionnent, il y a du travail. Je voudrais souligner qu'on a d'ailleurs créé beaucoup d'emplois ces dernières années. Il y a une politique de création de richesses que nous avons menée qui a porté ses fruits. Que nous ayons envie d'avoir une juste répartition de l'effort budgétaire, oui évidemment. On se fait soigner, les hôpitaux fonctionnent, les policiers sont dans la rue. Enfin franchement, le pays tourne et c'est un beau pays, c'est un pays magnifique avec des atouts, avec de la technologie, avec des gens compétents, avec des artistes formidables. C'est un pays qui fonctionne. Il a des difficultés, mais il fonctionne. C'est à nous, politiquement, de réussir à les résoudre. Et je suis sûre que nous y parviendrons.
En général, les Français qui habitent l'étranger sont assez confiants dans la France et ils portent haut les valeurs de la France. Donc, tous nos concitoyens qui nous écoutent et qui ne sont pas en France, il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer. Je veux dire, la France, elle a un avenir radieux devant elle si elle fait les efforts nécessaires. Et on a tous les talents pour les faire. Donc, une crise politique, ça se surmonte. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle se surmontera. Je ne la sous-estime pas, hein, je ne la mésestime pas. Je préférerais qu'on ait moins de crise politique et qu'on puisse axer son énergie sur d'autres choses. Mais c'est le cas, il faut le régler. Et moi, j'ai confiance dans notre capacité à le faire collectivement. Vous voyez, quand on est un groupe d'amitié, on vient en Australie, on représente beaucoup de partis politiques. On a une seule voix devant les ministres ou les parlementaires australiens, et c'est bien comme ça.
Une crise politique qui en chasse une autre. Il y a un sujet qui nous fait sourire ici en Australie, c'est notamment la réforme des retraites que vous avez soutenue, Monsieur Wirth. Ici, la retraite, c'est 67 ans. On a un système par capitalisation. Est-ce que c'est une solution pour le budget 2026 de se réattaquer aux retraites?
Mais les dépenses de retraite, c'est un quart des dépenses publiques. Donc personne ne peut penser qu'on peut s'occuper uniquement des crayons qu'on achète et pas des retraites. Donc on a évidemment besoin de s'en occuper. Mais entre adultes responsables, il n'y a aucun pays ne parle de retraite sans parler à un moment donné d'âge. Et on parle de l'âge de la retraite, c'est assez classique. Et donc on a besoin d'adapter une démographie faible, on a besoin d'adapter notre système de retraite. Alors on peut changer des choses évidemment, on peut créer plus de souplesse, on peut créer plus de prise en compte de la pénibilité, etc. etc. Mais à un moment donné, la réponse sur une démographie très très faible, c'est quand même d'augmenter l'âge de la retraite. Et nous avons besoin aussi de plus de travail. On a besoin que les jeunes rentrent plus vite sur le marché du travail. On a besoin de sortir un peu plus tard du marché du travail. On a besoin de résoudre nos problèmes de chômage, ce qui a beaucoup pas été fait, comme l'a dit Anne Genetet. Et grosso modo, en France, on doit avoir plus d'heures de travail. Sinon, on n'arrivera pas à financer, notamment le modèle social. Moi, ça fait 15 ans, j'ai fait la première réforme des retraites qui modifiait l'âge de la retraite, puisqu'on était passé de 60 à 62 ans. Il y avait eu exactement les mêmes postures. Les mêmes partis politiques disaient la même chose. Les syndicats disaient la même chose. On n'a rien appris en 15 ans. On aurait pu, hein, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est regrettable sur un sujet qui est assez objectivable. Parfois, on ne sait jamais bien. On peut jouer sur l'objectivité et sur la réalité. Là, il y a une réalité forte. Ce sont des faits. Et la réponse, elle doit être une réponse humaine. On est en France. Donc on doit adapter, évidemment, le travail à l'homme et pas le contraire. Et on a besoin aussi que les entreprises adaptent le vieillissement au travail. Et donc, il faut, au fur et à mesure du temps, augmenter l'âge de la retraite.
Vous avez parlé de votre programme. C'est un programme extrêmement chargé. Est-ce que vous avez quand même un petit peu de temps en Australie pour profiter? Monsieur Wirth, vous avez de la famille en Australie. Vous allez pouvoir aller la voir?
Vous êtes bien renseigné, oui. Oui, oui, j'ai un fils qui habite à Adélaïde. Et donc, j'irai passer le week-end à Adélaïde avant de reprendre mon avion lundi matin.
Et pour ma part, je poursuivrai la mission sur Sydney, après Melbourne, pour rencontrer les Français de Sydney. Où là, nous avons également là-bas une communauté dynamique et que je tiens à saluer à chaque fois que je passe en Australie. Ça me paraît important. Je me souviens que cette année, j'y étais deux fois dans l'année. C'est ma deuxième fois et je compte bien y revenir début 2026, comme j'ai fait très régulièrement.
On n'a pas eu le temps d'en parler, mais votre scope, Madame Genetet, est extrêmement grand. Mmh. Une très grande partie du monde, ça va d'ailleurs jusqu'à presque l'Europe. Vous arrivez à vous déplacer dans l'intégralité de votre scope ?
Je n'ai pas pour objectif de me déplacer pour me déplacer. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des communautés partout où il y a des sujets à traiter et des attentes auxquelles il faut pouvoir répondre. Par ailleurs, le travail est à 90% à Paris, où nous devons siéger, par exemple, quand nous avons des débats budgétaires. Et donc, j'essaie de profiter des périodes de suspension des travaux ou des déplacements de groupes d'amitié. Donc, j'essaie de jongler. J'essaie de faire une bonne dizaine de pays par an. Je peux guère faire plus, mais heureusement, nous avons plein d'autres outils pour être en contact en permanence. Et c'est ça qui est une très bonne chose.
Anne Genetet, Eric Werth, merci beaucoup.
Merci à vous.
Tu le sais, dans la vie, on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, pas bien là.
Un autre duo sur les ondes de Radio SBS, Slimane et Vita, avec la chanson « Ça va, ça vient ». L'Alliance française de Melbourne a inauguré le 9e espace dédié à la Nouvelle-Calédonie en Australie. Rencontre avec Yves Lafoy, que nous connaissons bien déjà sur Radio SBS. Il est délégué pour la Nouvelle-Calédonie en Australie. Il évoque les relations bilatérales entre l'Australie et son plus proche voisin français. Il évoque également le tourisme et l'héritage culturel, artistique, littéraire et gastronomique du Caillou, à quelques heures de vol de Melbourne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Ce mercredi 29 octobre 2025, il y a dans les nouveaux locaux de l'Alliance française de Melbourne une inauguration. C'est un nouvel espace dédié à l'héritage culturel, à l'héritage littéraire de la Nouvelle-Calédonie ici à Melbourne. Et on est en compagnie de Yves Lafoy, conseiller délégué pour la Nouvelle-Calédonie en Australie, qui a fait un discours d'ouverture lors de cette inauguration. Yves, bonjour. Ce corner calédonien, cet espace dédié à la Nouvelle-Calédonie ici à Melbourne, c'est la première fois qu'il y en a d'inaugurer, mais pas à l'échelle de l'Australie, puisque Yves, c'est ce que vous allez nous expliquer, c'est déjà le 9e, il y en a plusieurs dans d'autres villes d'Australie.
Bonsoir Marianne, c'est le 9e espace que nous inaugurons en Australie, donc le premier était à Sydney en 2019, et là en 2025, donc c'est le 9e espace, tous ayant été financés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Et il y a une centaine de livres qui sont dans ce corner ici à Melbourne. Je ne parle pas du coup pour les 8 autres espaces, ici c'est le 9e. Il y a une centaine de livres, ce sont tous des auteurs calédoniens. Et il y a également des œuvres d'art sur les murs de l'Alliance française de Melbourne. Elles sont signées Marie Luneau en collaboration avec le CREPAC. Le CREPAC, c'est le centre de rencontres et d'échanges internationaux du Pacifique. Comment ça s'est passé, est-ce que vous le savez, pour faire venir ces œuvres d'art ?
Pour les œuvres d'art qui ont été donc designées par l'intermédiaire du CREPAC avec l'artiste que vous avez cité, j'ai pas personnellement suivi la démarche, parce que c'est très technique et il fallait que les dimensions soient vraiment adaptées à l'espace de l'Alliance française. Par contre, on a une longue collaboration avec le CREPAC, le Centre de rencontres et d'échanges internationaux du Pacifique, qui lui a à chaque fois décoré les espaces Nouvelle-Calédonie qu'on a inaugurés, donc les 9. Et donc c'est un partenaire indispensable à l'action du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour promouvoir ce qu'on appelle une francophonie à l'océanienne. C'est-à-dire qu'on utilise des ouvrages uniquement d'auteurs ou d'auteurs calédoniennes pour servir à la fois de support d'enseignement aux enseignants et enseignantes de l'Alliance française, mais également pour promouvoir la destination touristique Nouvelle-Calédonie en Australie.
Alors justement, on l'a dit, il y a plus d'une centaine de livres d'auteurs calédoniens. Par rapport à la population en Nouvelle-Calédonie et par rapport à l'industrie de l'édition sur le Caillou, est-ce que ça représente quasiment la totalité des ouvrages calédoniens ou est-ce que c'est une sélection ?
Non, c'est une sélection. Et en fait, à chaque fois qu'on donne une subvention à l'Alliance, donc les Alliances françaises d'Australie, on leur laisse le choix total sur le type d'ouvrage qu'ils veulent avoir en librairie. Et par exemple, à Brisbane, l'Alliance française de Brisbane avait choisi d'avoir des ouvrages que pour la jeunesse. Donc un ouvrage vraiment spécialisé dans l'enfance. Mais là, sur les 104 ouvrages qu'il y a effectivement à Melbourne aujourd'hui, il y a beaucoup plus de variété, de diversité en Nouvelle-Calédonie.
Ça dit quoi, une inauguration comme celle de ce soir sur les relations bilatérales entre l'Australie et au final son plus proche voisin français ?
Exactement. Les Australiens ne connaissent pas bien la Nouvelle-Calédonie. Problème de langue, mais je leur rappelle à chaque fois qu'en fait la Nouvelle-Calédonie est le voisin oriental le plus proche de l'Australie. Si vous décollez de la côte est australienne, Sydney, Brisbane, le premier pays que vous allez traverser, survoler en allant vers l'est, ça sera la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un peu une façon assez concrète de montrer aux Australiens que un de leurs plus proches voisins, effectivement, est un pays francophone avec une diversité culturelle très forte, hein, puisqu'il faut rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, on a une diversité culturelle très importante avec bien sûr le peuple premier, les Kanaks, qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis l'origine, mais également des communautés bien sûr françaises, hein, européennes, mais également indonésiennes, japonaises, chinoises, polynésienne, Wallis et Futuna, donc il y a une très très grosse diversité culturelle, et donc c'est ce qui fait la richesse de ce territoire.
Oui, parce que quand on est ici en Australie, on voit à quel point il y a un fantasme autour de la France, que ce soit la gastronomie, la littérature, que ce soit la culture en général, mais souvent on pense à l'Hexagone. C'est vrai que les Australiens n'ont pas le réflexe Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce genre d'inauguration, ça réveille un petit peu l'espoir, ça attise l'espoir de relancer une forme de tourisme en Nouvelle-Calédonie ?
Oui, exactement. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le deuxième objectif d'inaugurer de tels espaces. Le premier, il a but pédagogique, mais le second, effectivement, c'est de promouvoir la destination Nouvelle-Calédonie. Alors, il se trouve que sur la côte est australienne, on n'est qu'à 2 ou 3 heures de vol. Bon, avec Melbourne, ça fait 5 heures, donc c'est quand même pas très très loin non plus. Mais l'objectif, effectivement, c'est de faire découvrir aux Australiennes et aux Australiens un territoire français où le vin n'est pas cher, comparé à l'Australie, où la diversité gastronomique est très grande. Donc on a bien sûr des plats typiquement français, mais des plats typiquement calédoniens, et un mix, une cuisine fusion entre les Asiatiques qui sont présents en Calédonie et les Océaniens. Donc c'est vraiment un melting pot, sans vouloir faire de l'anglicisme, gastronomique en Nouvelle-Calédonie, à quelques heures d'avion d'Australie.
On s'était justement rencontrés, c'était en décembre 2023, lorsque vous étiez venu inaugurer ou réinaugurer, je devrais dire, la ligne directe Melbourne-Nouméa par Air Calin. Malheureusement, cette ligne aura duré que quelques mois puisqu'elle a dû être suspendue à cause des émeutes. Elle n'a pas été rétablie depuis. Il y a toujours les deux lignes directes, Brisbane-Nouméa et Sydney-Nouméa. Est-ce qu'il y a une volonté de rétablir ces lignes, ou est-ce que pour le moment, il faut continuer à faire un stop depuis Melbourne et les deux lignes directes de la côte est ?
Alors, j'ai pas d'informations actualisées sur une potentielle réouverture de la ligne Melbourne. Comme vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, en ce moment, on est assez préoccupé avec le futur institutionnel. Que va devenir le statut politique, si je puis dire, de la Nouvelle-Calédonie? Donc, j'ai pas d'informations vraiment récentes et actualisées sur une éventuelle réouverture de cette ligne. Mais c'est vrai qu'avec la population de presque 6 millions, je crois, d'Australiens à Melbourne, c'est une destination privilégiée pour les Calédoniennes et les Calédoniens, notamment sur les volets culturels. Donc à terme, j'espère que cette ligne pourra être réouverte. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre là-dessus.
Et donc là, 9e espace qui met à l'honneur l'héritage, on l'a dit, culturel, littéraire, artistique de la Nouvelle-Calédonie en Australie. Donc là, on parle de Melbourne, mais évidemment, il y a les autres villes que vous avez citées. Des projets pour la suite, vous savez déjà comment encore améliorer ces relations bilatérales ?
Alors là, c'est sur le volet, on va dire, culturel. Il y a un autre aspect qui est très important sur le volet culturel, c'est le Festival du film de Nouvelle-Calédonie, que la délégation de Nouvelle-Calédonie en Australie, basée au sein de l'ambassade de France à Canberra, organise tous les ans depuis 4 ans, autour du 24 septembre, qui est la journée de la citoyenneté en Nouvelle-Calédonie. Donc cette année, en septembre, donc, on a projeté des films calédoniens dans 8 villes australiennes. Donc ça fait partie de ce volet culturel, en plus de l'ouverture d'espace. Et après, il y a d'autres volets, bien entendu, dans la relation Nouvelle-Calédonie-Australie. Il y a le dialogue politique. Les Australiens sont très intéressés, pour pas dire préoccupés, du futur institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, savoir si la Calédonie va rester française ou pas. Parce que si elle reste française, ça leur permet de garantir une stabilité régionale, on va dire. Il y a aussi les volets économiques. Vous savez que la Calédonie est le 5e producteur mondial de nickel. L'Australie produit beaucoup de nickel, notamment dans le Western Australia, en Australie occidentale. Donc on a des coopérations à ce niveau-là. Et puis il y a aussi tout ce qui est scientifique, innovation. La compétence recherche en Nouvelle-Calédonie est exercée par l'État, par la France. Mais on a beaucoup de coopération avec l'Australie via un fonds, un financement du ministère des Affaires étrangères parisien, le Fonds Pacifique, qui permet à la Nouvelle-Calédonie de se positionner en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans tous les pays insulaires de la région Pacifique pour avoir des programmes de coopération en matière de recherche. Voilà, donc ça c'est l'autre volet de mes portefeuilles, on va dire.
Merci beaucoup. Et donc, vous parlez de vos portefeuilles. Yves Lafoy, je rappelle, vous êtes conseiller délégué pour la Nouvelle-Calédonie en Australie. Merci.
Merci beaucoup, Marianne. Au revoir.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais.
C'était la chanteuse belge Angèle et ce titre « Tout oublié ». Hier, on vous parlait de John Curtin et son ascension au sein du Parti travailliste. Et bien, dans cette deuxième partie du podcast « L'histoire cachée de l'Australie », on se penche cette fois sur l'exercice du pouvoir par John Curtin en pleine Seconde Guerre mondiale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode qui s'intéresse à l'ancien Premier ministre John Curtin. Et dans celui-ci, eh bien, on va s'intéresser justement à la période durant laquelle ce monsieur, originaire d'Australie occidentale, a exercé le rôle de chef de gouvernement. C'est en plein durant la Seconde Guerre mondiale. Il va s'illustrer très notablement durant cette période. Je vous propose de commencer à l'écouter tout de suite. Donc John Curtin devient Premier ministre à peine 2 mois après ce fait majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, ça se passe plus à l'autre bout du monde, mais vraiment aux portes de l'Australie. Et ça change vraiment tout pour l'Australie, c'est un vrai changement. Cette fois, la guerre menace directement, c'est un vrai tournant.
Oui. Alors, ce que les Australiens à l'époque ne savent pas, c'est que les Japonais n'ont aucun plan militaire, aucune envie, aucune vision de vouloir envahir l'Australie. Mais ça, on le sait parce qu'il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus, bien que ça reste un des grands mythes australiens aujourd'hui, des gens qui sont pas très bien informés. Oui, l'Australie a failli être envahie pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est se donner de l'importance, mais en réalité, les Japonais n'en ont pas besoin. Ils ont toutes les ressources dont ils ont besoin sur les autres pays d'Asie qu'ils ont conquis. Donc, le fait que nous le sachions aujourd'hui, n'est pas, si vous voulez, important vis-à-vis de la perception de l'époque. Et la perception de l'époque, c'est « Oh là 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 là, on a une armée impériale qui descend sur toute l'Asie Pacifique, qui a l'air absolument invincible, qui gagne, et qui gagne même vis-à-vis de l'Empire britannique. » Parce que les Japonais défont les Britanniques en février 42, à Singapour. Et là, c'est un choc pour l'Australie, parce que l'Australie ne peut pas se défendre toute seule. Elle a une toute petite armée. L'Australie est dans la relation avec la Grande-Bretagne qui lui assure la sécurité à l'est de Singapour. Donc, le pacte, en fait, si vous voulez, c'est que la sécurité nationale de l'Australie est assurée par Londres via le réseau impérial auquel l'Australie contribue. Or, ce réseau, on vient de voir que ceux qui en sont les principaux opérateurs, les Britanniques, doivent non seulement se font battre par les Japonais, mais en plus sont en grande difficulté en Europe à un moment où Hitler est certes en perte de vitesse vis-à-vis des Soviétiques, mais c'est quand même on est quand même au cœur de la guerre en 42. Donc l'Australie se retrouve toute nue au milieu du Pacifique.
Et c'est donc à ce moment-là, alors aujourd'hui ça peut sembler évident, mais c'était pas le cas à l'époque, c'est vraiment à ce moment-là que ça se passe face au fait que l'Australie ne peut plus compter sur la Grande-Bretagne, c'est John Curtin qui prend l'initiative de se tourner vers les États-Unis. Et j'ajoute, au-delà de ça, que alors les États-Unis, c'est aussi un pays du Pacifique, on peut comprendre que ça semble normal et que ces pays font tous partie de ce qu'on appelait à l'époque les Alliés. Mais le choix est loin d'aller de soi à l'époque. D'ailleurs, il est très vivement critiqué en Australie par de nombreuses personnes qui ne comprennent pas ce choix de se tourner vers les États-Unis.
Oui, aujourd'hui, ça pourrait nous paraître bizarre. Mais à l'époque, alors en fait, ce qui est très fort, c'est que Curtin dit dans la presse, c'est un appel à l'aide. Hein. C'est vraiment un appel à l'aide. Nous sommes ouverts aux États-Unis, venez nous aider. Enfin, c'est pas la citation dans le texte, hein. mais ça s'appelle Call to America. Et effectivement, culturellement, en Australie, c'est très fort parce que la relation avec la Grande-Bretagne est très importante. Vous avez un nombre d'Australiens, naturalisés Australiens, qui sont nés en Grande-Bretagne, qui est extrêmement important. Le chef de l'État. Et le roi ou la reine, enfin, en l'occurrence à l'époque le roi d'Angleterre, donc le lien entre la Grande-Bretagne est très puissant, à la fois culturellement, militairement et surtout politiquement. Mais là, on se rend bien compte, Curtin a la lucidité de se dire bon, bah en fait, nous on va pas pouvoir tout seul, les Britanniques, bah ça va être compliqué. Vers qui on peut se tourner? Eh bien, vers la grande force dans le Pacifique en développement, parce qu'à l'époque, la grande force, c'est quand même le Japon, ça va être les États-Unis. Et en fait, l'aide, aujourd'hui, les Australiens, si vous voulez, ont une approche un peu romantique de ce moment-là. Les Américains viennent nous secourir. Les Américains, ils en ont un peu que faire de l'Australie. En fait, ils utilisent l'Australie parce que c'est une base arrière qui géographiquement est extrêmement bien située pour lancer des contre-offensives dans le Pacifique. Donc pour vous donner une idée, entre 42 et 45, je crois qu'il y a à peu près 2 millions d'Américains qui stationnent à un moment donné ou à un autre en Australie. C'est gigantesque pour un pays qui fait 7 millions d'habitants. C'est une révolution culturelle. Ça change les pratiques de rendez-vous galants, ça importe des collants en nylon, du rouge à lèvres. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, vous voyez, le débarquement en Normandie, quoi, si vous voulez. Et c'est une révolution culturelle, mais aussi technique. Les Américains construisent des aérodromes pour les avions, ils construisent des lignes de chemin de fer. Enfin, c'est un peu méconnu aujourd'hui des Australiens, mais entre 42 et 45, il y a énormément de choses qui sont faites par les États-Unis en Australie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent s'assurer une base arrière solide où ils ne peuvent pas être attaqués. Parce que vous avez plein d'endroits dans le Pacifique où ils peuvent stationner. D'ailleurs, ils stationnent aussi en Nouvelle-Calédonie, hein, soit dit en passant. Donc les Américains essayent de reprendre, de remonter vers le Japon. Et il faut faire ça petit à petit, si vous voulez. Donc, vous avez une série de batailles qui fait que les Américains progressent, mais la base arrière principale, le grand fait de guerre de l'Australie dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas tant la contribution au front que sa contribution en tant que base arrière américaine pour le déploiement des États-Unis dans cette zone. Parce que depuis le Pacifique, ils peuvent le faire depuis chez eux, mais ça fait quand même très loin. Mais dans cette zone sud-pacifique, ça permet aussi de contrôler ou de tenter de contrôler l'Indo-Pacifique. Et qui est-ce qui est envoyé par les États-Unis? le général fameux MacArthur, qui est déjà une très grande personnalité militaire et qui va continuer à l'être à mesure que la guerre progresse.
Alors, on reviendra sur MacArthur un peu plus tard. L'autre point qui m'a semblé assez intéressant dans cette biographie de John Curtin, c'est que donc il est un premier ministre en pleine Seconde Guerre mondiale. On peut imaginer que ça occupe déjà beaucoup ses journées. Il vient par ailleurs de négocier une nouvelle alliance stratégique militaire qui change complètement la donne pour l'Australie et qui est encore active au moment où on se parle, 80 ans plus tard. Et dans le même temps, visiblement, il a quand même trouvé le temps aussi de mettre en place en interne, au niveau de l'Australie, un nombre assez impressionnant de réformes. Et je le rappelle, donc c'est quelqu'un qui vient plutôt de la gauche du Parti travailliste, et visiblement, il ne l'a pas oublié une fois au pouvoir, parce que les mesures mises en place, dans l'ensemble, on pourrait les qualifier de très progressistes.
Oui, c'est vrai. Alors, il n'oublie pas que c'est un premier ministre de gauche et les conditions sociales de ses concitoyens, ça lui importe. Et on peut mentionner, par exemple, qu'il introduit une pension pour les mères abandonnées, parce que vous êtes encore dans une situation où, pour un divorce sans faute, il faudra attendre encore 30 ans. Donc, quand vous êtes une femme avec des enfants et que votre mari vous abandonne, ça prend quand même du temps pour pouvoir avoir un divorce prononcé par une cour. Donc, on met en place un système de pension pour les aider. Les Australiens aborigènes voient leur pension, leur dotation via la sécurité. Enfin, oui, ils reçoivent plus d'argent pour les aider. L'allocation de maternité également est étendu à un certain nombre de personnes, dont les aborigènes, dont les personnes d'origine asiatique en Australie, dont par exemple les personnes qui viennent du Pacifique aussi, qui sont installées en Australie. Donc, si vous voulez, quand il fait ces réformes-là, c'est pas seulement pour les Australiens blancs, c'est aussi pour les Australiens de couleur. Il y en a très peu. Mais c'est quand même important de le noter. Ça, alors on peut lire ça comme une attitude antiraciste. En fait, c'est surtout une attitude progressiste de travailliste qui considère que les fruits du travail doivent être répartis à tous et qu'une société doit faire attention à ses plus faibles. C'est parce que ça reflèterait mal sur sa conception de l'Australie que ces choses sont faites. Pas vraiment par conviction de l'égalité entre, je déteste ce mot, mais c'est le mot qui était employé à l'époque, entre les races, si vous voulez. Donc, effectivement, il y a des progrès sociaux pendant son mandat vis-à-vis des travailleurs, mais des réformes un peu plus structurelles également sur le système de taxation. Avant, chaque État taxait un peu différemment. Tout ça est harmonisé. Alors, parce qu'il y a la guerre, évidemment, et que ça permet au gouvernement fédéral d'obtenir plus de pouvoir. Hein, le jeu de l'Australie au XXe siècle, enfin le jeu de Canberra, c'est de prendre des pouvoirs d'État et de les ramener vers le gouvernement fédéral. Et généralement, les pouvoirs qui sont pris ne sont pas rendus au retour de la paix. Tout cela, enfin, ceci dit, effectivement, il mène de nombreuses réformes, et c'est un planificateur, c'est-à-dire que dès 42, dès 43, il commence déjà à travailler sur la question de la sortie de guerre. Comment on va faire après la guerre pour continuer à produire et puis non seulement être dans le camp des gagnants, mais repenser l'architecture économique de l'Australie. Parce que on voit bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Australiens en tant que base arrière produisent énormément pour l'effort de guerre. Et donc, cette capacité de production, de manufacture, si vous voulez, ils pensent déjà à l'après-guerre en se disant, voilà, comment on va pouvoir positionner économiquement l'Australie dans le monde d'après la guerre.
Et alors, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, malgré le fait, ou plutôt peut-être à cause du fait qu'il a passé tant de temps à essayer de réfléchir à l'après-guerre, il va décéder avant que celle-ci se termine, justement. Donc, son mandat de Premier ministre, enfin, ses deux mandats, au final, mandat incomplet, mais commence quelques semaines avant l'attaque de Pearl Harbor qui rend très concrète la Seconde Guerre mondiale pour l'Australie, et il décède quelques semaines avant la capitulation du Japon.
Oui, tout à fait, c'est très triste, hein. Il décède, je crois qu'il fait une crise cardiaque ou son cœur lâche, et il meurt à Canberra, et puis il est rapatrié à Perth où il est enterré. C'est assez touchant d'ailleurs parce que d'anciens premiers ministres sont ses porteurs, dont des premiers ministres d'opposition. Robert Menzies, qui est de droite, porte son comment on dit,
Son cercueil.
coffin. Son cercueil, je vous remercie. Donc, vous avez Billy Hughes, sur lequel on a fait un épisode, Earl Page, James Cullen et Menzies qui sont les porteurs. Je trouve qu'en termes de symbolique, c'est extrêmement touchant de voir que des premiers ministres de différents bords politiques se réunissent pour honorer sa mémoire. Alors, il y a certes la situation d'Union nationale pendant la guerre, mais c'est quelqu'un qui était respecté parmi ses collègues en politique parce qu'il s'entendait bien, du moins il était courtois et respectueux des avis différents que l'on pouvait avoir à la fois dans son parti, mais au-delà de son parti. Et donc effectivement il décède, mais ça si vous voulez tristement c'est le lot d'un certain nombre de leaders en situation de guerre. Au même moment, vous avez Truman aux États-Unis qui finit pas non plus la guerre. Une autre guerre, la première, Woodrow Wilson, le président américain, c'est pareil, sa santé décline parce qu'en fait, c'est des situations qui sont extrêmement dures à vivre, dans laquelle, en tant que premier ministre ou président, vous retrouvez à prendre des décisions qui peuvent vouloir dire la mort pour vos soldats, par exemple. C'est quelqu'un qui était très, très, très inquiet du bien-être de ces divisions. Et effectivement, quand on a une défaillance cardiaque, c'est probablement pas recommandé de s'exposer à des niveaux de stress comme il a pu les connaître.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Tu vois toute la femme de ta vie.
Julien Doré qui reprend cette célèbre chanson des L5, Toutes les femmes de ta vie. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet ainsi que sur les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite d'ici là de passer une très belle fin de week-end. Au revoir, messieurs, dames. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.